Louez le nom du Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être ici en son nom, d'entendre sa parole, et pas seulement cela, mais de participer intérieurement, de prendre part à ce que Dieu fait et de croire de tout notre cœur comme nous l'avons déjà entendu. Pour ma part, je voudrais également souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le cher nom, dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous nous réjouissons tout particulièrement de la venue de frères et sœurs de l'Est. Que Dieu les bénisse au milieu de nous et qu'il les nourrisse abondamment afin que tous puissent emporter une pleine mesure de la parole et de la bénédiction de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d'aplanir les chemins, d'ouvrir les portes, de donner des possibilités pour que la parole puisse être portée et aussi pour que les portes de fer s'ouvrent. Et nous espérons vraiment que beaucoup de choses s'amélioreront encore sous peu, afin que la parole du Seigneur puisse circuler sans entrave jusqu'à ce que les extrémités de la terre soient atteintes et que le Seigneur ait appelé les siens et revienne les prendre dans sa gloire. De même, nous souhaitons la bienvenue à tous les autres, en particulier ceux qui sont ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse de manière vraiment visible, comme il l'a fait lorsqu'il a fait grâce à son peuple et ne s'est pas mis en colère. Lorsque son peuple a été trouvé dans sa volonté, a marché dans ses voies et était certain que Dieu marchait, habitait et agissait parmi eux. Si nous considérons l'Ancien Testament, il y a effectivement eu différents temps, des temps de bénédiction, d'obéissance parmi le peuple de Dieu. Et il y a eu des temps de tribulation, de captivité, d'humiliation, de désobéissance. Il y a eu différentes périodes au cours de l'histoire du salut et de l'histoire. Il peut en être de même dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église du Dieu vivant. Nous souhaitons entrer dans une période où Dieu nous bénit, où il prend plaisir à nous voir, où il se réjouit de nous et où il peut vraiment nous bénir. Je pense que nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Nous ne pouvons pas faire mieux que de croire Dieu. Et il y a la parole, je crois que c'est dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 10, où il est dit, « Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. » Si Dieu dit quelque chose et que les gens ne le croient pas, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas ce qu'il a dit, alors ils le font un menteur. C'est comme si vous me disiez quelque chose et que je ne le croirais pas, je l'accepterais pas. Qu'est-ce que cela signifierait? Le péché d'incrédulité est en effet le plus grave. Il est une insulte directe au Dieu Tout-Puissant. Celui qui ne peut pas croire Dieu mourra dans son péché, c'est-à-dire dans le péché de l'incrédulité. Et pour cela, ou contre cela, que Dieu nous préserve. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir aidés, de nous avoir permis de venir à lui par la foi et de nous avoir sauvés, pardonnés, acceptés et d'avoir fait de nous un peuple qui lui appartient par grâce. Ainsi, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour tout. La parole circule, elle est annoncée, Les derniers sont appelés à sortir, quel qu'ils soient et où qu'ils soient. Et je l'ai souvent dit, comme pour Paul, de même en ces jours, devant haut et bas, on témoigne et Dieu sait comment il peut sauver, qui est-ce qui peut sauver et qui se laisse sauver et vient à lui. Le choix ne nous appartient pas, la prédication nous a été imposée, le reste est entre Dieu et les hommes. Qu'ils acceptent ou refusent, qu'ils disent oui ou non, nous ne pouvons pas l'influencer. Mais nous pouvons faire une chose, transmettre la grande offre de Dieu, inviter chaleureusement et crier, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec l'humanité sur la croix à Golgotha, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais maintenant, l'appel retentit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. L'appel est lancé, laissez-vous. Il s'est réconcilié avec nous. Mais maintenant, nous devons accepter cette réconciliation et l'en remercier de tout cœur. De tout cœur. Comme je l'ai dit, nous avons de très bonnes nouvelles de ces trois pays, comme précédemment pour les pays d'Afrique centrale. Il semble que Dieu ait particulièrement visité ce continent ces dernières années. Les gens affluent en grand nombre pour écouter la parole du Seigneur. À Abidjan aussi, spécialement, nous avons eu des réunions bénies. De nombreux frères sont venus de différents endroits, des pays voisins, pour écouter la parole du Seigneur. Des réponses ont été données aux questions. Ce qui n'était pas clair a été clarifié. Et je suis toujours à nouveau reconnaissant pour le lien que nous avons à la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Et j'ose presque dire, et ce n'est ni par arrogance ni par prétention. Il peut m'arriver des choses à moi aussi, mais une séparation, un détachement de la parole de Dieu, cela me semble impossible. Je suis une partie de la parole et la parole est en moi et je suis dans la parole. Une séparation de la parole ne peut pas être possible chez un véritable enfant de Dieu. Car la parole est la semence. Et il est dit que si la semence demeure en vous, 1 Jean, alors nous ne pouvons pas pécher contre Dieu. Et puis bien sûr, que la parole de Dieu demeure éternellement, comme nous l'avons entendu. Et Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, non seulement, pas seulement que vous les entendez, vous en discutez, mais qu'elles demeurent en vous, qu'elles deviennent une révélation. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, c'est de cela qu'il s'agit, en fait, ces jours-ci. Frère Kupfer m'a montré auparavant une brochure avec une longue liste de différentes églises libres et communautés. Et j'y ai jeté un coup d'œil rapide. Et comme Frère Rousse l'a déjà mentionné, ce sont des personnes, ce sont des voix qui s'élèvent. Comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu nous ait parlé par sa parole. Ce n'est pas ce que dit telle ou telle direction, mais ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ce qui nous engage, c'est ce qui est contraignant pour nous. De toute façon, à la fin, tout sera jugé selon la parole de Dieu. Deux annonces sont faites. On nous demande régulièrement si le souper ne pourrait pas être célébré plus souvent parmi nous. Je peux vous consoler en vous disant que si Dieu le veut, nous aurons le souper du Seigneur le premier week-end d'octobre. Nous aussi, nous aimerions le célébrer plus souvent. Mais J'y ai probablement senti dès le début la direction du Saint-Esprit. Je ne voulais pas en faire une forme répétitive, que cela devienne une habitude. Je ne voulais pas cela. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais nous l'avons quand même assez souvent dans l'année et à des occasions particulières. La Pâque n'était pas non plus célébrée chaque dimanche ou chaque sabbat, et ainsi de suite. Mais le souper du Seigneur ou la fraction du pain se faisait quotidiennement, en fait, dans le christianisme primitif, dans les maisons. Ici et là, on peut le lire dans les Actes des Apôtres. Il n'y a pas de prescription directe sur la fréquence de cette célébration. Et je pense que lorsqu'on la célèbre, il faut que ce soit dans le recueillement, que tout notre cœur soit dans la chose et que Golgotha se présente à nous de manière toujours nouvelle, à savoir ce qui s'est passé pour nous. Entrons dans l'observation de la parole. Vous savez qu'en ce lieu, nous suivons la parole que Dieu a adressée à l'Église autrefois, que la parole de Christ habite parmi vous avec abondance. Je ne crois pas que vous ayez entendu des histoires qui ont été annoncées ici, mais que vous avez toujours entendu à nouveau la parole de Dieu parce qu'elle a été annoncée. Il me tient à cœur que nous comprenions en tant qu'Église du Seigneur que nous n'avons pas seulement entendu la vérité, mais que Dieu veut nous ramener à l'ordre divin tel qu'il est écrit dans la parole et qu'il veut vraiment nous édifier sur le fondement très saint de la foi, non pas seulement en tant qu'individu ici et là, mais comme Église tout entière. Je lis le chapitre 2 de 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, versets 3 et 5. 1 Pierre 2, verset 3. Si vraiment vous avez goûté. Avez-vous ouvert 1 Pierre 2, verset 3. Si vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon. Puis-je demander si nous l'avons goûté? Le psalmiste a répondu, disait, goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Ici, la question nous est posée ou présentée comme un fait. Si vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon, si vous approchez de lui, de la pierre vivante qui, bien que rejetée par les hommes comme étant inutile, est considéré par Dieu comme un joyau choisi, c'est ainsi que vous serez aussi, vous-même édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices opérés par l'Esprit, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Un édifice est en cours. Celui qui a goûté et a vu combien le Seigneur est bon. La bonté de Dieu nous est apparue, écrit Paul à Tite. Dieu est bienveillant envers l'humanité par Jésus-Christ. Notre Seigneur, il s'est tourné vers nous avec bonté, avec douceur, avec grâce, et nous l'avons goûté. Nous en avons fait l'expérience et nous en sommes reconnaissants. Mais ce n'est que le début. Ensuite, nous devons nous approcher de lui dans la foi. Nous approcher de la pierre vivante que les bâtisseurs ont rejetée comme ils nous ont rejetés. Il n'y a pas de vrai croyant qui n'ait été rejeté. Comme Christ, tel que Christ, la pierre angulaire, a été rejeté. Il n'y avait de place nulle part pour lui. On a dit, nous ne savons pas d'où vient celui-ci. Les gens ne savent pas non plus d'où nous venons. Où est notre place? Si l'on posait la question dans cette ville, dans ce pays, on obtiendrait à coup sûr la réponse suivante, c'est quelque sorte une secte internationale. Et cela s'arrêterait là. De même que le Christ, la pierre vivante, n'entrait nulle part dans un autre édifice et qu'il n'y avait pas de place pour lui, de même pour tous ceux qui se sont approchés de lui, qui ont réellement expérimenté et goûté qu'il est bon et qui ont eu une rencontre avec lui, eux non plus ne s'ajustent nulle part, n'entrent eux non plus nulle part, seulement dans l'édifice divin dont Jésus-Christ lui-même a dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Cela continue ici dans ce texte. Il relit la deuxième partie du verset 4. « Bien que rejeté par les hommes comme étant inutile est considéré par Dieu comme un joyau choisi. » Celui qui veut plaire aux hommes ne peut plaire à Dieu. C'est ainsi que Paul l'écrit dans Galates chapitre 1, je crois le verset 10, probablement le verset 10. Celui qui cherche la faveur des hommes. Si je veux encore plaire aux hommes, je ne suis pas un serviteur de Christ. Nous devons faire le choix. Et je crois que tous ceux qui ont vraiment goûté que le Seigneur est bon, qui ont vraiment fait l'expérience de Dieu dans sa grâce, ces hommes, ceux-là ont été détachés aussi des hommes et de leurs enseignements et ont été conduits au Seigneur pour être liés à lui et à sa parole pour le temps et pour l'éternité. On ne peut pas boiter des deux côtés. Dès l'instant où un homme fait réellement l'expérience de Dieu, c'est fait pour lui. Il est alors ajouté comme une pierre vivante fondée sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ notre Seigneur. Je lis ceci encore plus loin au verset 5. C'est ainsi que vous serez aussi vous-même édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices opérés par l'Esprit agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si l'on posait ici la question avec notre intelligence humaine, comment serait-il possible d'une part que nous soyons des pierres de l'édifice destiné à être assemblés dans cet édifice et d'autre part que nous offrions des sacrifices spirituels agréables à Dieu opéré par l'Esprit, pouvons-nous remplir deux fonctions au même moment, bien-aimé? Si nous lisons les Écritures, et en particulier celles qui concernent notre Seigneur, alors il était et est beaucoup de choses. Il était l'agneau qui a été immolé. Il devait être le souverain sacrificateur, le médiateur, l'intercesseur. Il devait être beaucoup de choses et il l'est encore aujourd'hui. Nous pouvons assumer de nombreuses tâches. L'important, c'est que nous ayons fait le début authentique avec Dieu. Oh, que nous ayons tous goûté comme Dieu est bon. Que nous ayons vraiment fait l'expérience de Dieu pour pouvoir ensuite assumer les différentes tâches et fonctions. Je voudrais poursuivre la lecture de la lettre de Judas. Dans la lettre de Jude, dans le verset 17 de la lettre de Jude, il n'y a pas seulement une parole glorieuse, mais aussi une parole d'exhortation profonde. Nous lisons la lettre de Jude au verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prononcées autrefois. Vous savez ce qui a précédé cette déclaration? Comment a été décrite la situation telle qu'elle serait au temps de la fin et telle qu'elle était déjà à l'époque? Les temps ne changent pas trop. Tout reste comme avant, cela ne fait qu'empirer. À l'époque, Jude avait déjà dit « Malheur à eux » au verset 11. « Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont laissés entraîner dans l'erreur de Balaam par appât du gain et par leur rébellion. Ils ont péri comme autrefois Corée. » Il y a toute une liste est adressée, puis l'homme de Dieu s'adresse aux vrais enfants de Dieu ensuite. Ceux qui ne se sont pas laissés égarer, mais qui demeurent dans la parole et en qui la parole demeure. Les attachons et l'avertissement est la suivante ici. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prononcées autrefois. Au verset 18, qu'il vous disait, annonçait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise impie. Ce sont les gens, au verset 19, qui causent des divisions, des gens charnels qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je peux me permettre ici, sans faire violence aux Saintes Écritures, de faire remarquer que l'Esprit n'a pas tous ceux qui ont l'Esprit. Ils ont l'Esprit, mais l'Esprit ne les a pas à sa disposition. Avez-vous compris ce que cela veut dire? Ce qui devrait être ici exprimé? Tous ceux qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont été remplis de lui, qui ont été scellés par lui, sont conduits par l'Esprit, seront conduits ensuite par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et eux seuls, et non les autres, sont fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, est l'Esprit de la vérité. C'est ainsi qu'il est décrit dans l'Évangile de Jean. Au verset 20 de Jude, il est écrit, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur le fondement très saint de votre foi, priez dans l'Esprit Saint. » Qu'est-ce que ce fondement très saint de la foi est? Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui, car c'est ainsi que Paul l'a écrit aussi. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. La parole est adressée aux bien-aimés du Seigneur ici, à ceux qui ont goûté combien il est bon, qui ont fait l'expérience de sa miséricorde et de son amour, qui sont devenus des enfants de Dieu. Et là aussi, Paul écrit, formez votre vie, conduisez votre vie comme des enfants de Dieu obéissants. On peut devenir enfant de Dieu et être malgré tout désobéissant. On peut être enfant de Dieu et obéissant. Oh, nous devons comprendre cela. Avez-vous compris? Qu'en tant qu'enfant de Dieu, conduisez votre vie selon la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Vous devez façonner votre vie selon la volonté de Dieu. Donc, conduire votre vie. Qui d'entre vous voudrait être obéissant? La désobéissance est comme le péché de sorcellerie et la volonté propre comme l'idolâtrie. Et combien de volontés propres accompagnées de désobéissance se trouvent dans l'ensemble du monde religieux? Et peut-être aussi ici et là chez nous. Que Dieu fasse grâce, qu'il fasse vraiment grâce afin que l'on ne trouve plus ni l'un ni l'autre, ni la volonté propre, ni la désobéissance. Il y a ces 3, 4, 5 « je veux » de Lucifer avant sa chute. Je veux monter sur la montagne des dieux. Je veux. Et tout à coup, quand il a dit alors la dernière fois, je veux m'égaler au très haut, il est tombé. Il y a le je veux qui ne vient pas de Dieu, et puis il y a le je veux de Dieu. Nous pouvons le lire dans l'épître aux Hébreux. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, c'est pour faire ta volonté que je suis venu au Dieu. Et c'est pour faire ta volonté que je... Et faire ta volonté, c'est mon désir, c'est mon délice. Je veux. La volonté divine, c'est exprimé ici. Le je veux divin, c'est prononcé ici. Et Jésus a dit, parce que je veux, pas comme je veux, pas que ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça, il a dit comme fils de l'homme. C'est très important pour nous. Que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Puis revenons à l'épître aux Hébreux. C'est dans cette volonté-là, justement, que nous avons été une fois pour toutes sanctifiés. Peut-être que je devrais encore le lire. Ça devrait être facile à trouver. Ce sont des paroles, n'est-ce pas, connues, des versets connus dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 7. Hébreux 10, verset 7. Alors il dit, voici que je viens, il est écrit sur moi dans le rouleau du livre pour faire ta volonté, ô Dieu. Avons-nous compris cela? Maintenant, transportés à tous les enfants de Dieu. Nous sommes nous aussi ici sur terre pour faire la volonté de Dieu. Avant de pouvoir faire la volonté de Dieu, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Le verset 8 poursuit ainsi. Tandis qu'il dit au début, tu n'as pas voulu de sacrifice et d'offrande, d'holocauste et de sacrifice pour le péché. Et tu n'y as pas pris plaisir, bien que ces sacrifices soient offerts conformément à la loi. Il dit ensuite, au verset 9, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde comme étant valable. Ce n'est pas un sacrifice ou une offrande, ce n'est pas ce que nous pouvons offrir. Mais par le sacrifice unique de l'agneau de Dieu, c'est ainsi que la volonté de Dieu sous forme humaine a été accomplie ici sur terre. Et nous devons tous nous soumettre à cette volonté de Dieu. Et ensuite, il y a le verset glorieux. Oui, chaque verset est glorieux. Mais le verset 10. Verset 10. Et en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais je vous en prie, et je ne le dis pas seulement à vous, mais aussi à moi. Cela est en rapport avec la volonté de Dieu. Quand nous parlons de sanctification, il ne s'agit pas d'une sanctification que toi et moi pouvons rendre un peu opérationnelle sur moi, sur toi, mais il s'agit de la sanctification divine dans la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Que nous soyons pénétrés par la volonté de Dieu manifestée dans la vérité divine de la parole de Dieu et que cela se fasse sans si ni mais. Et que la parole de Dieu s'accomplisse en nous. Revenons à la parole du verset 20 de Jude un peu plus loin. Mais vous, bien-aimés, verset 20, Jude, vous édifiant sur le fondement très saint de votre foi, priez dans l'Esprit Saint. Oh, si Dieu pouvait nous donner de prier dans l'Esprit Saint. Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 12, « Celui qui prie en esprit parle à Dieu en secret des mystères. » Et l'Esprit dit des choses que nous ne pouvons pas savoir. Dieu veut faire de son Église une Église remplie de l'Esprit, autorisée par l'Esprit, dirigée par l'Esprit, scellé par l'Esprit. Et c'est là son Église. Il n'a pas d'autre Église que cette Église dans cette condition. Car c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30, que nous avons été scellés après avoir reçu la parole de la vérité. Et la parole de la vérité est la parole de Dieu. Non pas les interprétations, mais vraiment la parole dans sa forme originale telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, venant de Dieu. Ensuite, il est dit ici au verset 21 de Jude, « Et ainsi gardez-vous dans l'amour de Dieu. » De nouveau, encore un point de plus, revenons à la lettre aux Romains. Paul écrit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans l'effusion du Saint-Esprit, il n'y a ni fruit, ni don spirituel, donc de l'Esprit. Et l'amour est un fruit de l'Esprit. Un fruit doit pousser. Mais le terrain, le sol doit être préparé pour que la croissance puisse se produire. Et gardez-vous dans, et ainsi gardez-vous dans l'amour de Dieu, plein d'une attente confiante de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 21. Celui qui a fait l'expérience de la miséricorde pratiquera la miséricorde. Et il est écrit dans le sermon sur la montagne. Bénis les miséricordieux, bénis les pacifiques. Bénis ceux qui procurent la paix, bienheureux, béni. Tant mieux pour nous si nous pouvons être ajoutés à cette liste. Il est bon de lire de temps en temps le sermon sur la montagne afin de pouvoir comparer et d'avoir la comparaison si nous sommes déjà en accord et conformes ou si certains points doivent encore être modifiés. Mais voici maintenant un verset particulier et ce serait le verset 22 et le verset aussi 23 de Jude. Et avec ceux qui sont dans le doute, ayez de la compassion. Arrachez-les du feu et sauvez-les ainsi. Avec les autres, au contraire, ayez de la compassion dans la crainte, en détestant même le vêtement souillé par la chair. La compassion divine ne poussera pas un frère ou une sœur dans le feu, mais l'en arrachera à ceux qui sont dans le doute. Cela, nous ne devons pas les condamner. Cela, nous ne devons pas les pousser pour qu'ils tombent. Cela, nous devons les saisir. Les arracher pour qu'ils ne tombent pas dans le feu. Et lorsqu'il est question du feu, nous devons lire la parole de 1 Corinthiens chapitre 3, car cela se réfère déjà au jour du jugement. Pas seulement à la perte, à périr, mais il y a tout simplement des gens qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont liés et ne peuvent pas céder eux-mêmes. Qu'il soit alors secouru. Voici d'ailleurs le texte de la construction ou de l'édifice ou du fondement qui a été posé. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce que Dieu m'a accordée, 1 Corinthiens 3, verset 10, j'ai posé le fondement comme un architecte habile. Un autre bâtit dessus. Mais que chacun regarde comment il y bâtit ensuite. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ensuite, il est beaucoup question de la manière de construire. Il y a différentes manières et façons de construire, de bâtir. Et ensuite, ce texte se termine comme suit au verset 15. Comme suit au verset 15. Nous devrions déjà lire la dernière partie du verset 13. À cela, la dernière partie du verset... Oui, bon, lisons le verset 13 entièrement. Le travail de chacun sera manifesté car le jour du jugement le montrera, car il se révèle par le feu. Et le travail de chacun sera éprouvé par le feu même. C'est écrit ici que l'un construit du bois, avec du bois, du foin et de la paille. C'est une affaire du feu, pour le feu. Et le feu y met fin assez rapidement. Mais si l'or, l'argent, les pierres précieuses, et je pense ici en particulier à la parole d'Apocalypse 3, dans la dernière épître où il est écrit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or affiné au feu, éprouvé dans le feu, et notre foi doit être trouvée plus précieuse que l'or affiné au feu. » Affiné au feu. Vous voyez que Dieu veut donc nous donner une foi authentique, une vraie foi. Et je me souviens de cette parole, c'est dans un psaume où il est écrit que la parole de Dieu est sept fois purifiée. Amen. Cette foi éprouvée. Nous qui croyons la parole de Dieu, nous devons entrer et passer par cette purification divine. Épreuve divine, écrit Daniel. Beaucoup de personnes seront mises à part, purifiées et nettoyées. Il y a suffisamment de passages bibliques pour le prouver et le démontrer. Ce qui me semble important ici, c'est effectivement ce verset qui dit que nous sommes avec ceux qui ne peuvent pas encore, qui ne voient pas encore ce que nous voyons, pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le verset de Jude 21. Que nous soyons patients avec eux, que nous ne leur imputions pas leurs doutes. Combien de patience Dieu a-t-il déjà a eu déjà avec toi et avec moi? Et combien de patience Dieu aura-t-il encore avec nous? Ayons aussi de la patience les uns envers les autres. Qu'une compassion vraiment intime, vraie, puisse nous animer. Quand quelqu'un ne croit pas comme nous, et comme on l'a souvent dit, un véritable amour ne consiste pas en paroles, mais en actes. Ayez pitié d'eux et arrachez-les ainsi au feu, comme c'est écrit dans Jude. Ne les y poussez pas. Arrachez-les du feu. Ne les condamnez pas. Aidez-les plutôt. Dieu veut faire de nous des personnes qu'il peut utiliser, qui trouvent la bonne parole au bon moment et au bon endroit pour la prononcer afin que d'autres soient aidés. Pour en revenir à cette pensée de ce fondement, de ce saint fondement de l'édifice de Dieu, je voudrais, tel qu'on a lu dans Jude, je voudrais lire la parole bien connue de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Paul écrit ici à son fidèle collaborateur. 1 Timothée 3, verset 15. Mais si ma venue se fait entendre, sache mais afin que tu saches si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ailleurs, dans l'épître aux Hébreux, l'apôtre écrit, la maison de Dieu, c'est nous. Peut-être devrais-je justement le lire aussi. il est préférable de lire les passages bibliques à haute voix et ne pas se contenter de les citer. Car très vite, on pourrait avoir dit quelque chose de différent de ce qui est écrit. De ce qui est écrit. Hébreux chapitre 3, du verset 4. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison, car chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Quant à Moïse, bien qu'il ait été fidèle dans toute sa maison, en tant que serviteur, pour témoigner de ce qui devait être annoncé comme révélation. Ça, c'est Moïse, l'Ancien Testament. Maintenant, nous lisons concernant le Nouveau Testament. Mais Christ l'est comme fils sur sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Sur sa propre maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous restions inébranlablement attachés jusqu'à la fin, à la joyeuse assurance et à l'espérance dont nous nous glorifions. Il faut, pour atteindre le but, aller jusqu'au bout. La moitié du chemin ne profite à personne. Qu'écrit à son tour Paul aux Corinthiens, que celui qui court le fasse bien, sinon il ne sera pas couronné. Et si quelqu'un veut courir correctement, qu'il se débarrasse de tout ce qui l'entrave afin de pouvoir ainsi participer à cette course. Vous avez certainement tous lu cette histoire lorsque cet homme a eu la malchance de se faire prendre lors des derniers Jeux olympiques et d'utiliser certains stimulants. Il a alors été disqualifié. Cela ne faisait pas partie du programme. Nous devons jouer selon les règles du jeu de Dieu. Et nous devons rester dans les limites de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Et s'il est maintenant écrit ici, en ce qui concerne la maison de Dieu dans le Nouveau Testament, la maison, c'est nous. Pierre écrit auparavant, comme des pierres vivantes, nous sommes joints ensemble. Le Christ est ressuscité, il vit. Et l'édifice de Dieu est vraiment un édifice vivant. De même qu'il n'y a pas de membre mort à la tête vivante de Jésus-Christ, dans la tête vivante de Jésus-Christ, de même, il n'y a pas de pierre morte dans l'édifice de l'Église du Dieu vivant. Il faut d'abord que l'homme ait fait l'expérience de Dieu, qu'il soit né de nouveau dans une, pour une expérience vivante et qu'il soit ainsi devenu vivant. Et ce n'est qu'alors qu'il pourra être introduit dans cet édifice. Dans l'Ancien Testament, nous avons une magnifique leçon d'illustration. Salomon est allé chercher de partout les moyens nécessaires à la construction du temple. Les cèdres du Liban et tout ce qu'il y avait à prendre. Il l'a pris. Il est allé le chercher. Et tout a été travaillé et finalement, sans qu'il soit nécessaire de scier, de marteler ou de sculpter, l'édifice a été magnifiquement assemblé et joint. Et comme il est écrit, on n'a plus entendu de coups de marteau, de bourrin ou de scie. Nous sommes maintenant ajustés. Et je crois que la prédication sert à cela. Ce n'est pas l'un qui travaille l'autre. Mais sous la parole de Dieu, nous sommes tous mis en jugement. Mais grâce soit rendue au Seigneur, pas dans la condamnation, dans le jugement. Et ensuite, nous reconnaissons là où ça ne va pas. Et nous nous laissons corriger. Nous nous laissons corriger pour ensuite continuer à avancer avec le Seigneur. Paul écrit aux Éphésiens, dans le même sens, au chapitre 2, une parole que nous connaissons tous très bien, Éphésiens, chapitre 2, versets 20 et 21. édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont le Christ Jésus lui-même est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice solidement uni s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous contenter, nous satisfaire à avoir reçu la révélation de la parole pour ce temps, d'avoir entendu le message divin et de le croire aussi. Un objectif divin élevé y est lié. Lorsque nous parlons, il n'y a peut-être rien derrière. Lorsque Dieu parle, cela se produit. Il donne son ordre et, ça existe. C'est écrit dans le psaume 33, probablement. Là où c'est écrit. Dieu a quelque chose en tête. À la fin du temps de la grâce, il faut qu'une troupe qui a reçu grâce, qui a trouvé ou vécu le salut devant Dieu, existe. Et qui a été vraiment préparé comme résultat de ce qui doit s'être passé depuis Golgotha jusqu'à l'achèvement. Non pas à cause de notre volonté, mais cela a été le projet éternel de Dieu d'avoir une épouse, une fiancée, sans tache et sans rides. Et elle sera là à la fin. Jean l'a déjà vue en vision sur l'île de Patmos. Il a vu l'achèvement, une foule vêtue de blanc, pas de taches, pas de rides, rien de plus, tout comme Dieu l'avait prévu. C'est ainsi qu'il a vu l'Église dans sa perfection. Et je crois que nous avons compris qu'il ne s'agit pas seulement de doctrine particulière. Elles en font partie. Le fondement doit être bon. L'édifice doit être correct. L'enseignement doit être correct. Mais la vie aussi doit être juste. Tout doit être juste, correct. Mais en fin de compte, nous n'avons pas reçu les choses pour en discuter, mais pour participer à l'édifice de Dieu, pour faire partie de ce que Dieu fait maintenant. Comme nous l'avons souvent dit, pour prendre part à l'action finale de Dieu qui se déroule ici sur terre. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé sa parole et nous a rendus et nous a guéris par sa parole. Il a envoyé sa parole et les a guéris, spirituellement ou corporellement. Cela n'a pas d'importance. Que disait un jour frère Branham, le cœur vraiment déchiré. Le corps le plus malade que je connaisse sur terre est le corps de Jésus-Christ. Ainsi déchiré, brisé, ainsi blessé, est le corps du Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit principalement. Cette enveloppe terrestre, nous la quitterons tous un jour. Et frère Rousse a lu de manière très saisissante dans Isaïe 40, crie, prêche, qu'est-ce que je crie, qu'est-ce que je dirais? Dis que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se fane et la fleur se dessèche. Et voici, qu'il n'en reste rien. J'ai trouvé une photo à un moment donné. Je ne suis pas quelqu'un qui est souvent allé chez le photographe. Seules les belles personnes y vont. Mais quand on doit passer un permis de conduire et tout ça, on y va aussi de temps en temps, si c'est nécessaire. Et j'ai retrouvé mon très vieux permis de conduire de 1951. Et j'ai vu la photo et je me suis dit, mais ça a l'air très différent. Pour l'instant, comme à l'époque, n'est-ce pas? Mais c'est le chemin de l'homme. Nous fleurissons et nous nous fanons. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en nous, dans notre âme, dans ce corps, nous portons un trésor divin. Et Paul disait déjà, Je ne veux pas être dépouillé d'abord. J'aimerais mieux être revêtu tout de suite. Ne pas voir la mort d'abord, mais être transformé, changé, de quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit. Nous emportons tout de même avec nous une substance divine. Et l'apôtre dit également une belle parole adressée aux Corinthiens, quelque part au verset 19, « Et même si notre corps terrestre extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. Quelle que soit la faiblesse que nous puissions avoir dans notre corps terrestre, dans notre âme, nous chantons, « Seigneur, je retrouverai ma jeunesse. Je ne verrai plus de traces de détresse, de mort, de vieillesse, de maladie, et ainsi de suite. » Alors même nous, qui sommes déjà âgés et qui vieillissons, nous avons une merveilleuse consolation. Nous ne nous plaignons pas, parfois c'est à se lamenter, je l'avoue honnêtement, peut-être pas encore pour moi, mais pour d'autres. Mais nous pensons simplement que Dieu fera tout bien, que nous n'avons qu'à traverser cette terre, et puis viendra le glorieux jour de la résurrection. Et à ce sujet, Paul écrit, on se met dans la faiblesse, ressuscité dans la force. Se met un corps corruptible, ressuscité un corps incorruptible. Si seulement nous pouvions garder à l'esprit et nous souvenir des passages correspondants de l'Écriture dans chaque situation, cela nous donnerait du réconfort et nous aiderait non seulement à nous réveiller, mais à nous fortifier. Car c'est ainsi qu'il est écrit, de la consolation que nous donnent les Saintes Écritures. Et les Écritures Saintes, Paul a d'ailleurs conclu, écrit dans 1 Thessaloniciens 4, par ces paroles, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » 1 Corinthiens 4, verset 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Et avant cela, qu'a-t-il exposé? Que le Seigneur viendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange, et ainsi de suite. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Et ensuite, nous qui sommes vivants et qui sommes restés, nous serons changés. Nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours auprès du Seigneur, pour toujours. Et ensuite écrit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Une consolation pour nous tous. Il est semé dans la faiblesse, mais ressuscité dans la force. Un corps terrestre est semé un jour ou l'autre. Un corps qui ne peut plus vieillir sera ressuscité, ressuscitera. Un corps de résurrection tel que notre Seigneur l'a lui-même reçu avec la résurrection et tel que nous l'aurons aussi tous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Résumons de quoi il s'agit pour Dieu. Résumons ce qui compte pour Dieu maintenant. Il s'agit pour lui de l'achèvement de son Église qui est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Le Seigneur n'a vraiment qu'une seule Église et tous ceux de toutes les autres Églises peuvent appartenir à cette église uniquement s'ils servent le Seigneur, s'ils se laissent appeler à sortir, c'est qu'ils goûtent et expérimentent combien il est bon et s'ils sont rendus vivants par la nouvelle naissance et sont ensuite insérés dans l'édifice de Dieu en tant que pierre spirituelle. Nous venons tous de différentes dénominations et croyances, mais Dieu nous a fait grâce. Nous croyons qu'il fera encore grâce à beaucoup de gens et qu'il en appellera encore beaucoup d'autres, afin que la récompense de ses douleurs soit grande et que Golgotha en ait pleinement valu la peine. Je crois en cela. Je crois que Golgotha en a valu la peine. Je crois que le Seigneur aura une foule qui l'aura cru, qui lui aura fait confiance, qui lui aura obéi et qui cheminera avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue, des pierres vivantes, joints ensemble pour former son édifice divin, dans lequel des sacrifices spirituels doivent être offerts. Jude a dit, priez dans le Saint-Esprit. Oh, si Dieu pouvait répandre son esprit de telle sorte que tous prient dans le Saint-Esprit, que tout soit édifié, affermi et fondé comme Dieu le veut. Je crois en cela. Je crois qu'à la fin, l'Église sera comme elle était au commencement. Et si quand l'Esprit là-bas se répandait et que les gens étaient bénis et utilisés par Dieu, alors nous pouvons aussi nous attendre à une puissante effusion du Saint-Esprit. Et si autrefois, littéralement, le bâtiment tremblait, tout est possible. Ce ne serait pas la première fois. Je crois que c'était Pierre ou bien Paul. En tout cas, alors, une fois c'était Pierre, ou une autre fois c'était Paul, je crois que c'était Pierre. Alors que subitement, la porte des prisons, de la prison, c'est tout. Les portes sont ouvertes devant lui. Et il pensait que c'était un songe, ce n'était pas un songe. Les vrais enfants de Dieu ne vivent pas des rêves, mais ils expérimentent des réalités. Il a été conduit à l'extérieur. Les portes se sont ouvertes devant lui. Je n'ai aucun problème à croire cela. Dieu n'a-t-il pas les moyens de déverrouiller et de refermer une telle serrure? Il peut faire sortir n'importe quelle porte de ses gonds, faire monter et descendre n'importe quelle porte de prison vers le ciel sans qu'il y ait de fissure. Dieu peut tout faire. Et pour qui le fait-il? Pour les siens, qui lui font confiance, même à l'heure de l'épreuve. Ils lui font vraiment confiance et placent leur espérance en lui. Mais le Seigneur fera tout bien, même avec toi et avec moi. Que son saint nom soit loué, son merveilleux nom, saint. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour le grand privilège qui nous a été accordé de voir et de goûter combien tu es bon. Tu t'es révélé à nous dans une grande bonté. Nous t'avons reconnu. Nous savons qui tu es. Le même que tu étais dans l'Ancien Testament. Yahvé de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. Le même Seigneur, le même Dieu, dans le seul but de réaliser son dessein, s'est révélé dans la chair, s'est manifesté dans la chair. Seigneur bien-aimé, comme nous te remercions de nous avoir permis de faire l'expérience d'être réconciliés avec Dieu. Sauveur, nous t'en prions, rends-nous vivants. Seigneur bien-aimé, crée un peuple au cœur pur qui sera sanctifié pour toi, qui est sanctifié ensuite pour toi. Crée-le par la puissance de ton sang. Baptise-nous de feu et d'esprit, afin que nous te glorifions en langue, que notre cœur te loue, t'exalte. Seigneur, tu ne donnes que de l'authentique et du vrai. Et c'est ce que nous attendons et c'est sur quoi nous comptons. Fidèle Sauveur, continue à bâtir toi-même ton Église. Implique-nous, insère-nous et achève cet édifice jusqu'au moment où l'on s'écriera « Salut, salut, salut à lui ». Car la dernière pierre est entre ses mains, entre les mains de Zérubbabel. Seigneur bien-aimé, tu es à la fois la première, la pierre angulaire et la dernière pierre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est à toi que nous nous sommes confiés. Oh Seigneur, tu nous as rachetés. Tu as donné ton sang et ta vie pour nous. Nous sommes ici, Seigneur bien-aimé, avec tout ton peuple. Nous nous consacrons toujours à nouveau à toi. Aie pitié de nous. Fais-nous miséricorde. Fortifie-nous dans la foi. pardonne, n'impute rien d'eux et fais-toi même ton, crée-toi même ton chemin avec et parmi ton peuple. Nous te remercions pour tes paroles de nos jours. Ta parole n'est pas seulement une parole écrite dans le livre saint appelé Bible. Ta parole est devenue vivante par la révélation du Saint-Esprit et écrite dans des cœurs renouvelés, révélés en ces derniers jours. Fidèle Seigneur, que tu es grand, que ton nom est glorieux. Tu fais de grandes choses pour nous et pour toutes les extrémités de la terre. Nous te prions, Seigneur fidèle, de bénir ton héritage, de donner un nouvel éclat de grâce, un nouveau courage, une nouvelle force, une nouvelle confiance, une nouvelle obéissance pour te suivre. Nous savons que tu as commencé et que tu achèveras. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui sont ici et pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici. Seigneur, tu sais où ils se trouvent. Bénis les tiens sur toute la terre et depuis et sois avec nous tous. Aussi en cette heure aussi, nous te soumettons les intentions, les requêtes, les prières particulières, quelles qu'elles soient, en particulier la femme de notre frère bien-aimé de Wolfsburg. Oh, si tu voulais étendre ta main guérisseuse et la toucher, la force, la puissance sort encore aujourd'hui de toi. Tu es le même. Loué et exalté soit ton saint nom, même au milieu de nous. Si tu voulais maintenant toucher, guérir, délivrer, bénir, je te remercie d'être présent. Loué soit ton saint nom. Nous ne sommes plus un tas de gravats détruits, éparpillés. Nous sommes une maison de Dieu nouvellement bâtie. Sauveur bien-aimé, tu nous as montré le fondement. Et nous nous sommes laissés bâtir là-dessus. Loué soit ton saint nom sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu es la pierre angulaire. Nous te remercions pour cela. Tu ajoutes des pierres vivantes vers toi, à toi. Tu appelles et dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement. Oh Dieu, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et je te le demande maintenant. Donne à tous cette certitude que Golgotha est devenu une réalité divine aussi dans leur vie et que nous n'attendons plus. Nous faisons que attendre l'achèvement, le changement de notre corps. En attendant ces choses au Seigneur, change déjà nos vies, nos cœurs, nos âmes, afin que nous devenions des hommes qui marchent dans tes voies. Je t'adore, je te remercie. Seigneur fidèle, tu as fait de grandes choses pour nous ici. Nous te louons pour cela et glorifions ton merveilleux et glorieux nom de Jésus, en qui seule la grâce, le salut et la délivrance, oui, en qui Dieu s'est révélé et en qui tout peut être trouvé. Ah Seigneur, élève vraiment, fais luire ton visage sur nous. Ne détourne pas le regard. Regarde-nous à travers Golgotha. Élève ton visage sur nous. Tes mains bénies. Fais-nous grâce. De croire et de te faire confiance. Oui, donne-nous ta paix, ta bénédiction, ton salut. Je te rends grâce de ce que tu l'as fait. Je t'en remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.